Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce mercredi matin est Alain Le Foll. Il est tête de liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs à Saint-Brieuc pour les municipales 2026. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors Alain Le Foll, je précise pour nos auditeurs, vous étiez déjà venu il y a quelques mois au micro de Bretagne 5 matin, c'est la sixième fois que vous vous présentez aux élections municipales.
Hein,
voilà, je ne dis pas de bêtises.
Toujours à Saint-Brieuc.
C'est quoi cette volonté de vouloir finalement être là, être présent pour ces élections?
Ouais, je pense que c'est pour défendre les intérêts du monde du travail. Et je disais qu'au fil du temps, j'ai vu la situation pour le monde du travail se dégrader d'année en année. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les discussions qu'on a pour les municipales, on ne discute pas de la propreté des trottoirs, comme ça a été le cas à une époque, mais aujourd'hui, on parle du pouvoir d'achat qui est en berne, d'autant plus en berne ces temps-ci, puisque le carburant, vous savez, a pris 40 centimes pratiquement en 10 jours. Et donc, ça angoisse bien des familles aujourd'hui. On parle du problème du logement, puisqu'il est... Vous savez qu'il y a quand même 2800 logements vides à Saint-Brieuc et je pense qu'il faudrait une régie d'État pour prendre en charge la construction des logements nécessaires.
On va en dire un mot évidemment du logement.
Voilà, et je voudrais profiter de l'émission pour commencer à intervenir là-dessus sur ce qui angoisse aujourd'hui de plus en plus de monde, c'est la guerre. Et d'abord on en discute beaucoup, mais aujourd'hui elle a pris une autre ampleur avec l'embrasement de tout le Moyen-Orient, qui se traduit par des milliers de victimes civiles, aussi bien en Iran qu'au Liban, qu'en Syrie, etc. Et derrière tout ça, derrière cette guerre, eh bien, il y a quand même les intérêts des grandes compagnies américaines en particulier, mais disons de toutes les sociétés capitalistes qui veulent faire des affaires sur le contrôle du pétrole, sur le contrôle des ressources. Puis le capitalisme américain qui est le plus puissant, ben, il veut avoir des régimes à sa botte. Et donc c'est ça d'ailleurs qui dérange aujourd'hui Trump par rapport à l'Iran. C'est pas le fait que ça soit des ayatollahs. Hein. Et il a fait des affaires avec des régimes de dictature et il continue à en faire avec des régimes de dictature. Et tout ça, pour ne pas faire trop long, je dirais quand même que ça angoisse parce que c'est l'embrasement de la région, mais c'est la montée de la guerre qui va engager tous les peuples aujourd'hui, y compris la France, parce que la France, il y a 5000 soldats français qui sont sur le territoire de cette région-là. Et il y a la poussée de tous les budgets d'armement qui se développent, et généralement les armes, malheureusement, ça sert. Et donc, il y a une angoisse légitime, et nous, ce qu'on dit, c'est que tant qu'on vivra dans une société capitaliste où une minorité chercheront à tout prix à faire de l'argent, eh bien, on aura cette menace-là, d'autant plus que ce système, il est en crise. Et aujourd'hui, il faut absolument que le monde du travail se fasse entendre, défendre ses intérêts pour ne pas subir cette société plus longtemps.
Un petit mot justement sur cette guerre au Moyen-Orient. Il ne fallait pas que Donald Trump la déclenche. Pour vous, c'est un faux problème, la guerre?
Malheureusement, c'est pas un faux problème, c'est un vrai problème, mais c'est inhérent au système capitaliste qui, encore une fois, pour faire des affaires, pour faire en sorte que la bourgeoisie américaine en particulier fasse des plus grosses affaires, eh bien, sont prêts à mettre la planète à feu et à sang. Parce qu'on parle de cette guerre-là, on pourrait parler de celle de l'Ukraine, qui est aussi pour les terres rares de l'Ukraine, déclenchée par Poutine, qui est un dictateur, bien sûr, mais aussi poussée par l'impérialisme américain, qui était en train de mettre des bases dans toute cette région-là. On pourrait parler de toutes les guerres. Regardez la situation à Gaza, hein, où pour justement permettre aux gendarmes gendarmes américains, je dirais, qui est l'État d'Israël, eh bien, de faire la main basse sur la Cisjordanie, sur le territoire de Gaza, en laissant crever littéralement la population palestinienne. C'est inhérent au système capitaliste et c'est pour ça que nous, on pense que la classe ouvrière, il faut qu'elle le renverse.
Alors justement, Alain Le Foll, il y a cette angoisse que vous décriviez en commençant cette interview, une angoisse autour évidemment du pouvoir d'achat inhérent, alors par exemple effectivement à l'augmentation des prix de l'essence, des prix des carburants plus exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez rencontrer les briochins, les briochines, j'ai posé la question à quelques-uns des candidats, alors je vous la pose également, est-ce qu'ils sont préoccupés justement par cette situation qui a des répercussions directes sur eux?
Vous avez dit tout à l'heure que c'est la sixième fois que je me présente aux municipales. C'est la première fois qu'on ne discute pas des municipales. Franchement, là, je n'ai aucune interrogation sur le programme, etc. On discute pouvoir d'achat, logement, salaire, comment travail, chômage, quoi, et guerre. Mmh. Parce que, et oui, c'est une problématique aujourd'hui, parce que tout le monde se rend compte. Quand on voit, par exemple, des généraux, ou du moins des militaires qui rentrent dans les lycées pour recruter, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Donc, forcément, les enfants en parlent aux parents, et vice-versa. Et ça, c'est quand même une situation qu'on ne connaissait pas les années précédentes. Donc, effectivement, ça discute beaucoup de cette situation-là, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas discuter de pas grand-chose, comme on dit. Mais il y a ceux qui s'intéressent, il y en a quand même beaucoup qui s'angoissent de voir l'évolution. Et c'est normal. Et le problème, c'est que le système capitaliste, il est en crise depuis 50 ans. Depuis le premier choc pétrolier, hein, des années 70, il n'a pas beaucoup varié, sauf que la crise, aujourd'hui, elle s'aggrave. Et les sociétés capitalistes, ben, par tous les moyens, ils veulent faire du fric. Et y compris, ils sont en concurrence les unes avec les autres. Les compagnies européennes sont en concurrence avec les américaines. Elles ne font pas forcément le poids. Et donc, du coup, eh bien, ça crée un système qui est de plus en plus anxiogène pour les populations. Et ça en fait un débat dans les municipales.
Alors, on va essayer de parler quand même de quelques sujets locaux, évidemment. Vous faisiez référence à l'instant, Alain Le Foll, au logement. C'est une des préoccupations aujourd'hui. Comment venir travailler à Saint-Brieuc, venir s'installer à Saint-Brieuc, et surtout, comment s'y loger? Est-ce qu'il faut aujourd'hui développer plus de logements sociaux? Il y a aussi une précarité du logement. Est-ce qu'il faut discuter avec les propriétaires qui, parfois, ne peuvent pas entretenir les logements, ce qui fait qu'on a des logements indécents? Est-ce que vous avez, dans cette problématique du logement, des pistes?
Ben, il y a plusieurs problèmes. Il y a, comment dire, des propriétaires qui, comme vous dites, n'ont pas forcément les moyens de rénover leur logement. Mais je crois que c'est anecdotique, parce qu'il y a quand même des promoteurs immobiliers qui ont des logements, des immeubles entiers qui ne sont pas loués. Qui aujourd'hui, c'est quand même pour moi scandaleux de voir que la commune de Saint-Brieuc va demander à une société privée de les rénover pour les louer, mais avec des travaux qui vont être pris en charge au moins partiellement par la collectivité, pour des sociétés qui sont privées ou des propriétaires privés, et c'est pas un seul logement, quoi. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait réquisitionner déjà tous les logements vides. La loi le permet, hein, la loi de 45 le permet. Et donc, certains sont peut-être à rénover, mais à ce moment-là, ils sont réquisitionnés par la commune, c'est-à-dire repris par la commune sans rachat, justement, pour les propriétaires, rénovés et mis à disposition de ceux qui en ont besoin. Mais fondamentalement, ce que je pense sur cette question-là, il faudrait que l'État prenne en charge, par une régie dédiée au bâtiment, prenne en charge la construction des logements sociaux, et qu'il recrute lui-même les maçons, les architectes, etc., tout le personnel nécessaire pour construire des logements, plutôt que de laisser des propriétaires et des sociétés privées qui se sucrent au passage sur le dos des locataires ou des communes même. Puisque vous savez que des terrains sont mis à disposition de promoteurs, et ces terrains-là sont mis justement à disposition quasi gratuitement.
Le fait que ce soit un parc public, ça permettrait aussi peut-être d'avoir des prix de location plus en adéquation avec, j'allais dire, la sociologie des habitants et parmi eux des plus précaires.
Bien sûr, moi je suis pour la mixité sociale dans tous les quartiers, et justement le fait d'avoir une régie d'État, ça permettrait aussi de contrôler plus la mixité, et puis d'avoir surtout un contrôle sur les loyers, parce qu'aujourd'hui, ce qui est quand même absurde, c'est d'avoir propriétaires privés qui, sous prétexte de pénurie de logement, ben, justement, font ce qu'ils veulent sur le montant des loyers. Et moi, je suis pour le contrôle des loyers. Aujourd'hui, les salaires sont insuffisants pour bien des gens pour pouvoir se loger correctement. Le mal-logement est une réalité, sans parler de ceux qui n'ont pas de logement du tout. Et donc, là, c'est le fait que le pouvoir d'achat, il est insuffisant. Et donc, pour relever les salaires, ben, il faut justement prendre sur les bénéfices des grosses sociétés pour garantir un salaire correct à tous toute la population, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des sociétés qui se sucrent allègrement. Je prends ça comme anecdote, mais c'est quand même fort de café de voir qu'un ancien ministre des Finances a déclaré l'autre jour que 50 000 millionnaires en France ne payent pas d'impôts sur le revenu, bon, alors que des smicards, eux, ils en payent. Mmh. Donc je pense que de l'argent, il y en a. Et là, je parle des 50 000 millionnaires. Je ne parle pas des actionnaires des groupes comme Bolloré ou Total qui sont en train de se faire du fric aujourd'hui comme jamais. Bon, je pense que c'est de l'argent, il y en a, mais il faut savoir le prendre là où il est.
Il faut un rééquilibre social, selon vous. On le voit aussi aujourd'hui. Ça amène encore à la précarité, une fois encore, mais, ou en tout cas à la difficulté des gens de se loger, de se nourrir parfois. Il y a tout le monde associatif qui est très présent ici à Saint-Brieuc, mais plus largement en Bretagne et même partout ailleurs en France. Est-ce qu'il faut aider le monde associatif? Est-ce qu'il peut être un relais des municipalités, justement, pour pouvoir faire ce travail de terrain, de pouvoir aider ceux qui sont dans la précarité?
Il l'est, le mouvement associatif, que ce soit les associations caritatives qui viennent en aide, comme Secours Populaire, Restaurant du Cœur, qui souffrent aujourd'hui du fait que beaucoup de gens qui donnent ou qui donnaient à ces associations elles-mêmes voient leurs revenus baisser, donc donnent moins. Hein, mais malgré tout, la solidarité populaire, elle existe dans ce domaine-là. Mais moi, ce que je trouve quand même aujourd'hui aberrant, c'est qu'on demande aux associations de pallier les carences de l'État, de l'État, parce que, en l'occurrence, parce que aujourd'hui, les communes, on leur demande de plus en plus de choses, mais sans leur donner forcément de moyens. Que ce soit les communes, d'ailleurs, ou les départements ou les régions, où Macron, il a déclaré il y a une quinzaine de jours qu'il allait leur donner encore un tour de vis au niveau des budgets. Donc ça va forcément avoir des conséquences pour l'ensemble de la population. Et c'est pour ça que nous, on développe, enfin, je fais une parenthèse, mais on ne développe pas un programme municipal dans cette campagne. Non pas parce qu'on n'en a pas, on en a un, bien sûr, mais c'est absurde de développer un programme tout en sachant qu'on n'aura pas les moyens de l'appliquer. Moi, c'est un peu ce que je reproche gentiment à tous les autres concurrents, parce qu'ils ont des programmes qui vont de 90 à 140 propositions, voire plus. Mais bon, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas l'appliquer, parce que non pas forcément qu'ils n'ont pas envie, mais ils n'en ont pas les moyens. Et donc, sur des problèmes des associations, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations souffrent. D'ailleurs, on leur coupe les vivres parce que les communes n'ont pas les moyens de continuer à les subventionner. Et donc, ça va avoir des conséquences importantes. Par exemple, les associations sportives, on voit leur budget baisser la plupart. Et donc, ça va forcément contraindre les familles populaires à ne plus, par exemple, inscrire leurs enfants pour des activités sportives ou culturelles. Bon, ça, c'est des conséquences concrètes du fait que l'État est en train de pressurer la population à tous les niveaux. Et ça, des conséquences locales. C'est pour ça que les problèmes sont généraux, mais avec des conséquences locales.
Voilà, c'était un peu le sens aussi de ma question, c'est comment appliquer un programme local, on va le dire comme ça, municipal, alors qu'on sait que dans les années à venir, a priori, les budgets vont être de plus en plus contraints. Est-ce qu'il faut, autre aspect de la question, contraindre l'État à assurer finalement les missions qu'il dévolue de plus en plus aux communes ou aux territoires?
Vous savez, au début, vous me demandiez un peu de quoi on parlait. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens sont effarés de voir que pour se soigner, il n'y a pas de moyens. C'est galère pour trouver un médecin, c'est galère pour avoir...
J'allais y venir à la santé.
J'y viens directement parce que... Et aujourd'hui, on nous annonce que le budget militaire, il a doublé, il va encore doubler d'ici 2030. Bon, moi, je trouve que c'est quand même complètement fou. Alors, l'État, aujourd'hui, c'est une vache à lait pour des grandes entreprises privées, y compris celles d'armement, au détriment des services utiles à la population, comme la santé, comme l'éducation, comme les subventions aux associations dont on parlait tout à l'heure. Donc nous, on est effectivement pour que la population, elle s'occupe de la politique, mais de la réelle politique, c'est-à-dire du fait que les entreprises privées les plus grosses accaparent toutes les richesses aujourd'hui produites par des millions de gens, qui permettent à des actionnaires de s'enrichir comme jamais. Ben nous, on pense que la population doit avoir un droit de contrôle et que cet argent-là serve à satisfaire les besoins de l'ensemble de la population. Alors l'État ne le fera pas sans l'intervention de la population. Parce que tous les États, qu'ils soient de la première à la sixième république que certains mettent en avant, ou que quelle que soit la couleur politique des hommes qui sont au gouvernement, ils sont tous au service de la même classe sociale, qui est qui représente une infime minorité, mais qui accapare les richesses produites par d'autres parce qu'ils détiennent les entreprises, détiennent les banques. Ben, nous, on pense que ça, il faut le mettre sous le contrôle de la population, d'autant plus que c'est la population qui fait tout fonctionner. C'est le monde du travail qui fait tout fonctionner. C'est lui qui doit diriger la société. Nous, c'est ça, notre fil à plomb, notre ligne directrice, elle est là. Et on se sert des élections municipales pour dire une fois de plus que le monde du travail, il doit prendre conscience et confiance dans sa force, parce que sans lui, rien ne fonctionne. Et donc, quand on dit quels moyens l'État pourrait avoir, l'État aujourd'hui, il doit être au service des travailleurs, et ça ne peut faire que par une intervention des travailleurs eux-mêmes.
Alors justement, vous me donnez une transition toute trouvée, Alain Le Foll, j'allais vous poser la question de la place justement des habitants d'une ville, d'une commune, dans la démocratie locale. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, mais je connais déjà un petit peu votre réponse, est-ce qu'il faut aujourd'hui donner plus de levier aux habitants d'une commune pour décider de projets, pour amender parfois les projets, ou pour décider finalement de leur destinée dans cette commune, que ce soit en matière de finances, en matière d'aménagement, d'urbanisme, de logement, pourquoi pas, et de santé.
Vous savez, pour que la population ait son mot à dire, il faudrait déjà qu'on la consulte vraiment et qu'on tienne compte de son avis. Moi, je voudrais pas polémiquer, mais il y a quand même eu des consultations de la population ici, même à Saint-Brieuc, qui n'ont pas été suivies d'effet, ou du moins on n'a pas tenu compte de... Moi, je vois la voie verte dans certains secteurs. La population s'était opposée au passage parce que ça voulait dire que les voitures ne pouvaient pas rentrer, les gens ne pouvaient plus rentrer leurs voitures chez eux, etc. Bon, ça a été fait malgré tout, malgré l'avis contraire de la population, par exemple.
On a forcé un peu la main.
On a un peu, plus que forcé la main. Mais je dirais que ça, c'est inhérent, là aussi, au fait que la population, elle a malheureusement pas beaucoup son mot à dire. Mais je pense qu'on devrait, effectivement, pas simplement au niveau local, mais plus général, dans les entreprises aujourd'hui, les travailleurs, on leur demande pas leur avis. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils n'ont pas le pouvoir de décider. Nous, on veut que les travailleurs, ils aient le pouvoir de décider. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, sans eux, rien ne se fait. Eh bien, nous, on veut que les travailleurs, ils organisent la société en fonction de l'intérêt collectif. Et ça se fait dans des situations de crise. Je vais rappeler une nouvelle fois ce qui s'est passé au moment du Covid. Le personnel de santé a été bien plus responsable que n'importe quel ministre pour faire en sorte que ça ne soit pas une catastrophe encore plus grande, hein, alors qu'ils avaient très peu de moyens. Dans l'éducation, des enseignants font des prouesses avec, là aussi, de moins en moins de moyens. Hein, quand on a une AESH pour plusieurs gamins qui ont besoin, ben voilà, les personnels éducatifs se débrouillent, comme on dit, et fait preuve d'imagination. Et je pense que dans toute la société, le monde du travail, il fait preuve d'imagination pour que la société fonctionne encore à peu près. Eh bien, puisqu'on fait tout fonctionner, les travailleurs doivent la diriger, cette société. C'est ça, vraiment le fond du problème.
Justement, vous parliez d'éducation, vous parliez de personnel. Il y a aussi la place des services publics, on le voit aujourd'hui. Il y a une forte demande de maintien des services publics, de la poste, de la perception, même si on n'aime pas toujours la perception. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a aussi un véritable défi, même pour des villes comme Saint-Brieuc, de maintenir les services publics, de faire en sorte aussi que ces services publics soient présents dans les quartiers, parce qu'on parle souvent de la ville-centre, mais il y a les quartiers aussi autour.
Bien sûr, moi j'ai participé à la lutte contre la fermeture des bureaux de poste il y a quelques années à Saint-Brieuc, et je trouve aujourd'hui qu'il n'y a plus assez de services publics, mais là aussi c'est des problèmes budgétaires. On ferme les maternités de proximité, on ferme aujourd'hui des services utiles à la population pour consacrer le maximum d'argent public à des entreprises privées. Et moi je pense qu'il faut absolument faire l'inverse, mais ça il faudra une pression sociale bien plus importante que le bulletin de vote, quoi. Et donc aujourd'hui, je vois qu'il y a une forte demande, comme vous dites, parce qu'il y a un tas de gens qui ne maîtrisent pas non plus l'informatique, etc., et qui ont besoin d'avoir le contact avec les services publics et qui ne l'ont pas. Mais aujourd'hui, moi, je trouve, par exemple, dans le domaine de la santé, un truc complètement fou, c'est que les communes aujourd'hui s'arrachent les médecins à coups de subventions, à coups de maisons médicales, etc., pour pouvoir attirer les médecins sur leur commune. Bon, ben, je pense qu'il faut élargir le nombre de médecins en formation. Hein, et ça, c'est loin d'être le fait de l'État aujourd'hui, puisque l'État est toujours en train de chercher de l'argent pour les entreprises privées au détriment des services publics. Et donc, il faut inverser absolument la tendance, mais sous la pression de la population.
Justement, aujourd'hui, il y a une part de l'entreprise privée. On le voit, vous souriez, est-ce qu'il faut finalement tout nationaliser ? Il ne faut plus d'entreprises privées, selon vous ? Ou au contraire, il faut arriver à des partenariats, j'allais dire, sain et correct entre le privé et le public.
Quand je parle d'entreprise privée, moi je n'ai rien contre l'artisan, le plombier, l'électricien ou autre, le boulanger qui veut s'installer à son compte et qui veut réussir son entreprise. Ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 270 milliards d'argent public qui sont dilapidés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à des grandes entreprises, qui sont versés à des grandes entreprises, qui servent à spéculer pour les actionnaires ou les propriétaires de ces entreprises. Ça ne sert en rien la collectivité. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Mmh. Et donc, il faut que la population ait un contrôle sur l'argent public. Et tant qu'à faire, moi, je pense que les travailleurs qui font tourner toute la société, ils doivent justement la diriger et donc mettre la main sur la propriété privée des grands moyens de production. Moi, je pense qu'il faut effectivement les mettre au service des travailleurs. On appelle ça nationalisation. Mmh. Mais moi, je voulais revenir sur un autre aspect que j'ai entendu hier. Là, il y a 7 millions de personnes qui vont sans doute avoir une mauvaise surprise au niveau de la taxe foncière. Là aussi, on va taper sur les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, hein, pour justement continuer à avoir des milliards pour l'armement, pour les services qui ne sont pas forcément utiles à la population. Moi, ça me scandalise, cet aspect-là.
Il faudrait mieux, selon vous, reverser la taxe foncière, en tout cas cette augmentation possible, vers les communes, vers les villes, pour qu'elles puissent justement mettre en place des projets beaucoup plus en phase avec les attentes.
Moi, je pense surtout que l'État... Il devrait consacrer plus d'argent pour les collectivités, communes, départements, etc., plutôt que d'arroser les sociétés privées. Donc l'argent public doit aller aux services publics, et y compris délocaliser certains nombres de... je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs, mais délocaliser certains services publics à l'échelle des communes, qui elles-mêmes pourraient les disperser dans les quartiers nécessaires. Aujourd'hui, on parle de l'armement, par exemple, c'est un autre aspect, mais on parle de l'armement de la police pour lutter contre la délinquance. Moi, je ne crois pas, d'ailleurs, toutes les études le prouvent, l'armement de la police, l'augmentation des caméras ne règle rien la délinquance. Ce qui peut régler la délinquance, c'est qu'on donne aux gens les moyens de vivre, de se loger et de vivre normalement.
Pour éviter les économies parallèles, par exemple.
Exactement. Exactement. Pourquoi il y a aujourd'hui des gens qui basculent dans les trafics ? Beaucoup sont liés à l'argent facile, comme on dit, même si ça ne dure pas longtemps, généralement. Mais parce que, voilà, la société ne leur donne pas d'avenir. Ben voilà, il y en a quelques-uns qui basculent. Et c'est marginal. Et ce n'est pas l'armement de la police qui va régler ces problèmes-là. Par contre, on va encore consacrer de l'argent pour cet aspect-là, alors que je pense qu'il faudrait multiplier les éducateurs de rue et, intervenir dans les quartiers avec du personnel formé pour régler les comportements délictueux et améliorer les rapports sociaux. Mais les rapports sociaux se dégradent parce que toute la société se dégrade. Quand on voit aujourd'hui l'augmentation du chômage, l'augmentation de la pauvreté, etc., forcément, ça a des conséquences sur le comportement humain.
Il faut remettre, par exemple, en termes de sécurité, des petits commissariats de quartier, avoir ce lien entre, l'autorité et les quartiers.
Moi, je ne sais pas si c'est un problème d'autorité. Moi, je suis un peu un ancien là-dedans, mais moi, je me souviens des quartiers dits du Plateau et de la Croix-Lambert avec leurs grands immeubles qui ont été détruits depuis. Il y avait des militants, il y avait des éducateurs, il y avait même des îlotiers, des policiers îlotiers qui réglaient un tas de problèmes sans avoir besoin des caméras, sans avoir besoin des bombes lacrymogènes et compagnie.
Là, il faut ramener à l'échelle humaine, finalement.
Oui, je pense qu'il faut... Et aujourd'hui, on vit dans une société de moins en moins humaine, et je pense qu'il faut ramener ça à ce qu'elle était auparavant sur cet aspect-là, mais il faut mettre les moyens, c'est-à-dire mettre les moyens. Mais je pense que le problème de fond, je dis souvent, si on donne du travail à tout le monde, un salaire qui permette de vivre et un logement décent, on règle 90% des problèmes.
Il faut aussi remettre au goût du jour ce qu'on a appelé longuement et longtemps l'éducation populaire. On l'a un petit peu oublié, ça.
Bah, le problème, c'est que l'éducation, c'est comme la culture. La culture, ça commence à l'école. L'éducation, c'est l'école, c'est son métier, comme on dit. Aujourd'hui, ça devient des parents pauvres, aujourd'hui, parce que moi, je vois des enseignants qui se décarcassent pour donner le maximum de culture à la population, et en particulier aux jeunes, sauf qu'ils n'ont pas les moyens. Mmh. Aujourd'hui, on a des classes à 30, 35 gamins. Ce n'est pas forcément facile lorsque, auparavant, on avait des classes de 20 ou 25 gamins, déjà.
Avec des mentalités qui ont évolué aussi.
Je pense d'ailleurs, puisqu'il paraît-il qu'il y a moins d'enfants scolarisés ces temps-ci, ben justement, plutôt que de diminuer les moyens, il faut profiter pour faire de l'éducation par petits groupes. Mais tout ça, c'est une question de volonté politique qui ne dépend pas forcément des communes, même si j'ai été quand même un peu scandalisé en début d'année là, de voir que même à Saint-Brieuc, il y avait des écoles, il n'y avait pas de chauffage. Bon, je pense que là aussi, sans accuser qui que ce soit, il y a quand même des priorités qui n'ont pas été respectées.
J'avais envie de vous entendre aussi sur l'aspect un peu plus politique, Alain Le Foll. Là, aujourd'hui, à Saint-Brieuc, il y a plusieurs listes. Hein, vous avez là également, vous êtes porteur de cette liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Liste située à gauche, hein, vous me corrigez si je dis une bêtise.
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la gauche. Mais
alors, justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Au second tour, vous appellerez une alliance éventuellement pour que la gauche demeure à Saint-Brieuc, enfin, la gauche dans son expression la plus large, ou est-ce que vous n'appellerez pas à choisir un camp, si j'ose dire ?
Non, on n'a pas pris de décision. Ce qui est sûr, c'est que, comment dire, aujourd'hui, quand je disais ironiquement que la gauche, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, quand on voit le PS qui vote avec Macron, quand on voit, enfin bon, moi, honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire gauche-droite aujourd'hui. Ce que je constate depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est quelles que soient les équipes en place, parce qu'on a tout connu quand même. Hein. L'extrême droite, on dit qu'on ne les a pas connus. Moi, je pense que des gens comme Darmanin ou Retailleau, c'était des dignes représentants d'une extrême droite présentable, peut-être. Mais enfin, les idées qu'ils défendaient, ce n'étaient pas celles du monde du travail. Et je pense que les travailleurs, ils ont subi toute la politique des uns et des autres. Et on voit aujourd'hui les résultats, c'est que par dégoût, beaucoup aujourd'hui renoncent à s'exprimer, voire à s'exprimer en votant pour l'extrême droite, qui est le pire ennemi du monde du travail. Parce qu'ils jouent sur les divisions, ils jouent sur l'opposition entre travailleurs français, travailleurs immigrés, entre le public, le privé, etc. Mais quand il s'agit de voter, par exemple, l'augmentation du SMIC, ils savent dans quel camp ils sont, c'est-à-dire dans le camp du patronat, puisqu'à chaque fois, ils s'opposent à l'augmentation du SMIC. Hein, et ils veulent absolument pas de contraintes. Sur l'histoire de l'augmentation de l'essence, là, ils sont pour la baisse des taxes. Mais ça veut dire que les taxes qui ne seront pas prélevées, moi je suis pour la baisse des taxes, mais à condition que ce soit les compagnies pétrolières qui prennent la différence. Parce que sinon, c'est la population qui, par un autre biais, va être pénalisée. Eh bien, le Front National, là, ils défendent l'idée que, justement, il faut baisser les charges, mais sans demander à Total de payer. C'est-à-dire que c'est la population qui va aujourd'hui payer par un autre biais la baisse éventuelle de taxes sur le pétrole.
Il nous reste une poignée de secondes, Alain Le Foll. Juste un tout petit mot très rapide. Est-ce que ces élections municipales, selon vous, c'est un premier test avant la présidentielle qui va arriver très vite ?
Ah bah, de toute façon, le scrutin municipal n'est municipal que de nom, parce que tout le monde est déjà dans la campagne des présidentielles. Et donc, nous, ce qu'on veut dire, encore une fois, dans cette campagne, c'est qu'il faut que le monde du travail s'exprime et qu'il se serve des élections municipales, pas pour changer son sort, mais pour pouvoir se compter sur l'idée que, pour changer la situation, il faut que le monde du travail s'organise et impose une autre société si elle ne veut pas crever avec cette société capitaliste.
Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Alain Le Foll, je rappelle que vous êtes tête de liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs à Saint-Brieuc pour ces municipales 2026. J'allais dire, vous êtes dans la dernière ligne droite. Le scrutin, le premier tour, a lieu ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.